podcast.com. Essaye ça.
Être en affaires et en famille en même temps, c'est pas toujours facile. Mais quand on sait s'y prendre, ce n'est pas la mer à boire. Mesdames et messieurs, Christine Marcotte.
Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Pas la mer à boire. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a beaucoup évolué dans sa vie, qui a fait beaucoup de changements, que je connais depuis... Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on se connaît. Stéphanie Sabot, bonjour!
Allô!
On se connaît depuis quand?
Depuis que t'étais enceinte d'Emma.
Ah ouais, hein? Ça fait au moins 5 ans, ça veut dire... On s'est connus, t'étais dans... Comment ça s'appelait, non, la compagnie?
Jam Moment.
Ah ouais, ouais, c'est ça, parce que on était au début du réseau des mères en affaires. T'étais venue à une activité de Montréal.
C'était Montréal, une petite boutique.
Ouais, c'était chez Calin Popotin. T'étais venue faire des ongles dans une activité. C'était-tu pour la journée de la femme ou la fête des mères? Je me souviens pas. C'était une des deux.
D'après moi, ça doit être la fête des mères parce qu'il n'y avait plus de neige.
Crème, t'as une bonne mémoire. Je me souvenais pas, moi, s'il y avait de la neige ou pas. C'est excellent. Mais là, on n'est plus du tout là-dedans.
Non.
Parle-moi de ça, là. Présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Ton parcours?
Et tu veux qu'on parte de là où on s'est rencontrés?
Tu peux parler du spermatozoïde que tu étais jusqu'à aujourd'hui, si tu veux. C'est comme tu veux.
Et ce serait un peu long, l'histoire du spermatozoïde. Fait que mettons qu'on part de où... Je vais partir un peu avant qu'on soit rencontrés. Là. En fait, j'étais maman à la maison. Puis mon anxiété a pris une place énorme en étant maman à la maison qui a fait que j'ai décidé de me lancer dans, ben là, à la base, un MLM pour sortir, pour rencontrer des gens. Puis parce que j'aimais bien ça me faire croire que j'étais pas capable de vendre mes affaires à moi puis que j'étais meilleure pour vendre les affaires des autres.
Mmh.
Fait que de là, il y a eu Gel Moment, il y a eu Tupperware, il y a eu deux fois Beachbody, il y a eu Avon. Puis je sais que j'en oublie une, mais je me rappelle pas. C'est suffisant. Au point où mon chum, quand je regarde des plats Tupperware, il est comme, si t'en veux, t'en achètes, mais t'en vends plus, là.
Ah ouais, hein? OK.
Puis tu sais, je me disais que j'étais meilleure pour vendre les affaires des autres, mais j'ai jamais rien vendu dans aucun des MLM.
C'est vrai?
Ouais. J'étais bonne pour faire des présentations, pour être là, mais j'avais le côté trop conscient de, si t'as pas d'argent pour remplir tes Tupperware, achète pas de Tupperware. Fait que je repartais de là,
pas bête, pas bête. OK, OK. Puis là, de fil en aiguille, ça t'a amené à autre chose.
Oui, de fil en aiguille, dans le fond, mon fils est rentré à l'école. On a choisi d'inscrire ma fille à garderie parce qu'on savait que le cordon allait être difficile à couper. Et ça faisait déjà 10 ans, dans le fond, là, tu sais, John Moment, c'est pas donné de nulle part, mais ça faisait déjà, ben là, ouais, ça devait faire à peu près ça, 8-9 ans que j'avais appris à faire des ongles, que je voulais faire des ongles dans un salon, mais là, avec les enfants, je voulais être à la maison. Fait que j'avais pas poussé plus. Fait qu'en inscrivant ma fille à garderie, j'avais essayé de retourner sur le marché du travail avec des employeurs, là. Je nommerai pas l'endroit. Mais j'ai pas tant bien été traitée.
On parle-tu d'une grande chaîne qui fait des breuvages chauds et noirs, mettons, là?
Non, ça, c'était avant.
Ah,
là,
ça,
on parle
avant.
D'une grande chaîne qui font des sandwichs frais.
OK, d'accord.
Puis de là, j'ai été malade, en fait, là, une mini-histoire de j'ai eu un stérilet qui a fait un abcès dans mon utérus.
Oh, mon Dieu! Voyons, j'ai bien mal au ventre tout d'un coup.
C'est ça. Fait que quand ils me l'ont enlevé, ben là, ça en est suivi des suivis médicaux. Je pouvais pas travailler. Puis je recevais des messages sur ma boîte vocale de quand est-ce que tu reviens, c'est donc bien long, puis ça va-tu se régler ce problème-là?
Ah, mon Dieu.
Fait que c'est là où j'ai eu le déclic que j'étais clairement pas faite pour le marché du travail, puis ça rejoignait pas mes valeurs, là, le manque d'humanité que les gens avaient. C'était l'occasion parfaite pour lancer les ongles que j'avais tout le temps rêvé lancer.
OK.
Fait que là, il y a comme 2 ans, là, je t'ai rappé.
Rappé ça à 2 secondes et quart. Fait que là, les ongles arrivent.
Ouais.
Mais là, au travers ça, tu t'es développé une petite expertise par rapport à quelque chose que tu vivais toi personnellement.
Ouais, en fait, il y a eu dans tout ça, il y a eu le parcours de mon anxiété qui a été de 1 à l'étape du diagnostic parce que je savais pas que j'avais ça. Puis le chemin à faire. Là. Moi, j'étais rendue au point où ils m'avaient diagnostiqué agoraphobe. Que j'allais plus sortir de chez nous. Puis les psys que j'avais vus au début m'ont comme répondu, « Ben, ça va être ça ta vie. Comme, fais-toi l'idée, ça va devenir difficile. Il y en a qui sortent plus jamais. » J'avais 23 ans quand ils m'ont annoncé ça.
Oh my God!
Fait que là, moi, ça a comme fait un déclic dans ma tête. Tu sais, mes enfants à 23 ans, ils avaient 2 puis 1 an, là, même 3 3 puis 1 an, mettons.
Fait que là, le médecin te dit, tu sortiras plus jamais de chez vous, puis t'as un enfant de 3 ans puis d'1 an avec toi. Aïe aïe.
Ouais, ça faisait pas de sens. Fait que c'est de là où est venu vraiment mon désir, un, de comprendre c'était quoi l'anxiété, de comprendre pourquoi j'étais comme ça, puis de comprendre le chemin, si on veut, genre, qui m'attendait, là.
Mm-hmm. Puis là, dans cette quête-là de compréhension, est-ce que t'as découvert que t'étais née avec ça, que tu l'avais développé plus tard? Est-ce que c'est un choc qui t'a apporté ça? Comment ça marche, l'anxiété, là, cette belle bébite-là? Là?
Ben moi, je dirais que je suis née de même. Là. Du plus loin que je peux me rappeler, je me souviens que j'allais vomir dans les toilettes à l'école avant des orales, des oraux. Je sais plus comment le conjuguer.
Je pense que les deux se disent maintenant.
Mais j'allais... C'est ça, j'étais malade avant les oraux. Ou même des fois, pour rien, je voyais des amis qui chamaillaient, qui chicanaient, du monde qui criait, puis fallait jamais me cacher aux toilettes. Les orages, là, moi, je vivais ça avec mon Walkman jaune en boule dans ma chambre, les doudous sur ma tête, puis j'attendais que ça passe. Puis, tu sais, je te parle de ça, j'ai 4-5 ans. Hein? Fait que ça a toujours été là. J'ai tout le temps été l'amie plate, peureuse, qui veut rien faire, puis que c'est donc dangereux, puis qui veut pas explorer le monde. Moi, mon balcon faisait mon affaire, puis c'était suffisant, puis les amis voulaient que j'aille coucher chez eux, puis je demandais même pas à ma mère. J'étais comme, oh non, ma mère, elle veut pas.
Ah ouais.
Je voulais pas y aller.
Tu te fermais la porte directement, là. OK, fait que dans ton chemin de compréhension, tu t'es rendu compte que depuis que t'étais toute petite, que tu vivais de l'anxiété. Comment on fait, à 23 ans, avec un diagnostic comme ça, deux jeunes enfants pour finalement sortir de chez vous? Parce qu'aujourd'hui, tu sors de chez vous, là.
Oui, aujourd'hui, je suis fonctionnelle. Tout va bien. Comment on fait? Je dirais, on respire, là. Faut que t'acceptes la nouvelle. La deuxième étape, c'est de le nommer, de le dire. On est dans une génération où on a peur d'en parler de ce qu'on vit, puis qu'on a peur de faire des attaques de panique devant le monde, puis que c'est donc gênant, puis que c'est donc honteux, puis qu'est-ce que le monde va penser. Mais pendant que tu choisis de le garder en dedans de toi, ben tu t'essaies de l'étouffer, puis lui, tout ce que ça demande, c'est à sortir, puis à exister. Fait qu'il y a cette première étape-là que d'accepter puis de le nommer, que, tu sais, si on s'était cassé un bras, là, on serait pas gêné à l'épicerie de dire, hey, excuse-moi, genre, si je t'accrochais avec mon panier.
J'ai le bras dans le plat, tu sais.
Tu sais, mais là, quand c'est notre tête qui décide, qui explose puis qui va pas bien, mais là, on n'est pas à l'aise de le dire puis de le nommer.
Ah, c'est intéressant quand même. Fait que là, explique-moi donc comment on passe d'une MLM aux ongles à de l'anxiété. Puis là, je pense qu'il y a de la PNL là-dedans.
Ouais.
On rappe tout ça, puis on fait une belle affaire, là.
En fait, il y a eu beaucoup d'aide. Premièrement, je pense que tu peux pas traverser ce chemin-là toute seule, comme un athlète ne va pas aux Olympiques toute seule. On est tellement dans notre caca, là. J'ai le droit de dire ça.
Absolument.
On a le nez tellement dedans qu'on peut pas s'auto-aider, puis on compte souvent sur notre entourage. Moi, j'ai beaucoup compté sur mon conjoint pour m'aider, mais c'est pas sa job. Non. Sa job, à la limite, c'est d'être là puis de me flatter le dos puis de me dire que ça va aller, mais c'est pas sa job de me relever puis de faire les choses à ma place puis de me pousser dans le dos.
C'est
parce
pas un spécialiste qui a les notions pour vraiment t'accompagner et t'aider. Il y a beaucoup d'amour, mais d'attitude, dans le fond.
Ça, puis parce qu'un peu comme un enfant, nos enfants, ils font des crises avec nous, mais moi, j'étais à l'aise de faire une crise avec mon chum. J'étais à l'aise de dire que ça me tentait pas de repousser mes limites puis d'arrêter de me pousser dans le dos. On dirait pas ça à un spécialiste, par exemple.
Non.
Fait que, tu sais, moi, il y a eu beaucoup d'aide. Il y a eu 2 ans et demi. De thérapie, je l'ai magasiné beaucoup, là, parce que comme j'ai dit au début, la première chose qu'elle me disait, c'est que ça va être ça ma vie, que ça va être comme
ça.
Oui,
c'est ça.
Fait que tu sais, je l'ai magasiné beaucoup, puis il existe, je savais pas dans ce temps-là, mais tellement de ressources, malheureusement pas gratuites, mais il existe tellement de services de ressources, justement les coachs, la PNL, l'Access Bar maintenant aussi. Ouais. Fait que le chemin que j'ai fait, c'est pas mal ça. Là. Moi, j'ai eu ma thérapie, puis tout ça, puis après ça, j'ai eu le désir... fallait que ça ait un sens. Pourquoi j'ai traversé tout ce chemin-là? Pourquoi moi, je m'en suis remis? Puis l'anxieuse ambitieuse est née du fait de voir toutes les mamans sur les médias sociaux se complaindre dans leur maladie puis se tirer tout ensemble vers le bas. Là. Il y a comme un mouvement ces temps-ci où tout le monde dit à quel point c'est difficile puis à quel point c'est plate puis à quel point c'est désagréable puis que c'est pas facile puis qu'on est donc pas chanceux d'être pris de même. Mais il y a personne qui se responsabilise. Puis si t'oses le faire dans ces groupes-là, ça se peut qu'ils te sortent et qu'ils ne soient pas d'accord. Fait que moi, c'est vraiment de là qu'est né mon projet qu'on a traversé comme toutes les MLM. Puis dans le fond, en novembre 2018, à peu près, là, j'ai eu un déclic de « je peux pas avoir vécu tout ça pour rien ». Il y a des gens qui vont le faire ce chemin-là, puis j'ai des outils qui pourraient leur rendre ce chemin-là plus facile.
Fait que t'as décidé de redonner au suivant.
Ouais, j'ai décidé d'accompagner ces gens-là puis de leur montrer que tu sais, c'est comme dans tout, là. Il n'y a pas de noir ou de blanc. Mm-hmm. L'anxiété, on a mis ça d'une case, puis on a dit que c'était noir, qu'il ne fallait pas en parler. Puis là, il y a ceux qui y croient pas parce qu'on le voit pas. Puis là,
exact.
Mais c'est tellement plus que ça. Tu sais, moi, l'anxiété, là, ça m'a apporté un levier énorme. Ça m'a permis de reprendre le contrôle sur ma vie. Ça m'a permis de découvrir, de sortir, d'explorer ce que moi, j'avais jamais fait vu que c'était depuis que je suis tout petite.
Ben oui.
Tu sais, moi, aller dans un festival avec 2000 personnes, là,
c'était non.
Je passais ma soirée d'une petite cabine bleue à attendre que la soirée soit finie, aller au cinéma. Tu sais, moi, j'étais allée au cinéma avec mon chum, puis j'étais comme, hey, ce serait-tu la bonne place faire un attentat, là? C'était ça qui m'habitait. Pendant qu'il y a un événement au cinéma, puis là, j'ai eu peur que quelqu'un écoute.
Oh,
j'ai
mon donné une Dieu! Idée.
Mais moi, j'allais au cinéma avec Jean-Louis, puis j'étais comme... Ouais, mais là, je pleurais, là. J'étais triste pour mes enfants. D'un coup, qu'il arrive quelque chose, on est là, les deux en même temps, puis les... Maintenant, ça, ça n'existe plus, là. Je vais au cinéma avec mon chum, puis on va passer une belle soirée, puis on va venir notre soirée. Fait que je sais qu'il y a des gens qui traversent ça, qui se sentent toutes seules. Puis qu'en ce moment, la ressource facile que les gens trouvent, ben, c'est d'aller sur des groupes de mamans, dire ce qu'ils vivent. Puis se faire encourager là-dedans qu'ils sont des victimes puis que c'est pas facile. Fait que je voulais vraiment leur donner de l'espoir à quelque part là-dedans aussi.
Oui. Puis tu sais, il y a tout le côté médicament. Tout le côté qu'on est médicamenté. Pas nécessairement à tort, mais souvent, ça devient une béquille. Qu'est-ce que tu prends de toi là-dedans?
En fait, tu sais, ça appartient aux médecins, je veux dire, ils sont libres de choisir si la personne qu'ils ont devant eux, dans quel état aller, puis tout ça. Le côté triste que je trouve dans ça, c'est que ça manque d'encadrement. Puis tu sais, c'est pas tant de la faute des médecins, ils n'ont pas le temps à un moment donné d'encadrer la personne. Puis même s'ils disent qu'il faut qu'elle fasse une thérapie ou qu'elle consulte ou qu'elle aille chercher de l'aide extérieure, il peut pas non plus y tenir la main puis faire le chemin avec elle.
Ouais.
Ce que je trouve triste, c'est que c'est utilisé comme une béquille. Mais que c'est temporaire, là. Tu sais, la médication, c'est comme mettre un plaster sur ton bobo. Puis, tu sais, moi, j'en ai eu recours, là. Puis, si c'était à refaire, je le ferais. J'avais besoin qu'on tire ma plug. J'avais besoin que mon cerveau arrête parce que je voyais plus clair, parce que c'était rendu tellement gros. Tu sais, moi, mes attaques de panique pouvaient durer 3 jours de temps sans manger, sans sortir, sans dormir. Il a fallu que Jean-Louis m'amène à l'hôpital et qu'il fasse comme aidez-la parce que ça marche plus.
Ouais.
Fait que tu sais, rendu là, quand ils m'ont donné de la médication, j'ai même pas eu le choix. Le médecin, il est resté assis à côté de moi, sans civière, à attendre que j'accepte de prendre les pilules.
OK.
Fait que j'ai vraiment rien contre la médication, puis ça peut tellement être nécessaire, puis de juste mettre sur pause pour se permettre de se reconstruire, puis d'être bien. Fine. Mais il y a plus que ça après. Je peux pas croire que ton ambition, c'est de rester 70 ans sans médication pour bien vivre.
Oui.
Il y en a que oui, il y a un pourcentage de la population.
Surpose, dans le fond, tu sais.
Oui, mais il y a un pourcentage de la population que c'est un désordre chimique, mais c'est tellement petit, ce pourcentage-là. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a, tu sais, il n'y a pas de jugement de temps. Tu sais, si toi, ça te prend 4 ans pour être sur pause, ben, tu avais besoin de ça. Toi, tu es tout le temps parfait, puis toi, tu es toujours correct dans les choix que tu fais. Mais je trouve ça triste de voir qu'ils sont pas encadrés et que ces gens-là sont pas informés qu'ils peuvent avoir une belle vie et qu'ils peuvent reprendre le contrôle de leur vie.
Sans prendre une petite pilule à tous les jours. Il y a plein d'autres choses qui existent aujourd'hui qu'il n'y avait peut-être pas dans le temps, puis encore moins quand on recule encore plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Puis ça dépend du niveau de la personne. J'imagine qu'il y a plusieurs niveaux de type d'anxiété qu'on peut avoir ou non?
Oui, parce que tu deviens pas, tu sais, j'étais pas anxieuse à 4 ans comme je l'étais à 23 ans quand ils ont décidé de me mettre sur pause, mettons. Ouais. Fait que tu sais, oui, ça augmente, mais en fait, c'est que ça augmente, c'est un peu comme un agresseur. Plus tu y laisses du pouvoir, plus il va prendre la place.
OK.
Mais ton anxiété, c'est la même chose. Plus tu le laisses gérer ta vie, plus tu restes dans ta zone de confort, puis que toi, tu te mets dans un petit coin, mais plus lui, il en prend.
Mm.
Fait qu'à un moment donné, à force de pas vouloir le nommer, de pas vouloir la vivre, de tout le temps vouloir l'étouffer, mais tout ce que tu fais, c'est d'y donner du pouvoir. Puis à un moment donné, tu te retrouves comme moi, à 23 ans, pris dans un coin, plus capable de vivre, plus capable de fonctionner, plus capable de rien faire du tout. Là.
Ouais, fait que là, mère en affaires, qui fait de l'anxiété, qui a plein d'outils, ça a l'air de quoi ton quotidien aujourd'hui?
Mon quotidien aujourd'hui, ça a l'air de une... Je suis encore comme à temps partiel, maman à la maison. Je dirais, j'ai encore gardé la charge des tâches de l'épicerie puis du roulement de la maison. Mais on rajoute à ça, il me reste encore quelques clientes d'ongles.
Oui.
Puis sinon, on rajoute, tu sais, dans le fond, toute la gestion de mon entreprise, le coaching, l'accompagnement. Moi, c'est ce qui m'allume le plus. Fait que plus j'accompagne des clients, dans une journée ou dans une semaine, pour moi, c'est le bonheur infini. Fait que, tu sais, il y a tout l'envers de l'entrepreneuriat, là. Fait que les médias sociaux, toutes les infolettes, ces trucs-là. Mais sinon, ce qui habite vraiment mon quotidien, c'est ça, là. C'est mes tâches de maman, ma routine, mon temps pour moi. Puis après ça, vient tous les projets de l'anxieuse ambitieuse, les coachings, les clients, tout ça.
Parlons-en de l'anxieuse ambitieuse. Dans le fond, tu as utilisé quelque chose qui t'arrivait, qui aurait pu être dramatique, noir, négatif, puis tu l'as transformé en positif parce que maintenant, tu accompagnes des gens qui vivent de l'anxiété.
Oui.
Parle-moi donc de ça. Comment est née l'anxieuse ambitieuse, voyons?
On va l'avoir. Elle est née premièrement du désir de vouloir à mettre un sens à ce que moi j'avais vécu, mais aussi d'offrir cette opportunité-là aux gens, puis du fait qu'il y a tellement un manque de ressources, on n'en parle pas. Tu sais, oui, il y a Belle Cause pour la cause qui en parle, il y a une journée pour les maladies mentales, tout ça, mais c'est encore tellement tabou. Tu sais, la seule histoire qu'on entend encore vraiment beaucoup parler, c'est Joe Roberge quand il est tombé dans le rack de chips. Ça date quand même, là, comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler. Il y en a qui en sortent un peu plus. Tu sais, Maman Caféine en parle un peu dans ses stories. Mm-hmm. André Sauvé qui fait quand même des shows d'humour sur
scène.
Sur scène, ouais. Sur lui, là, que lui est une personne très anxieuse puis qui va en parler. Mais on n'en parle pas comme on parle du cancer du sein. Puis pourtant, c'est comme avoir le cancer du cerveau. Là. Ceux qui sont pris avec l'anxiété, ils sont pris dans leur boîte. Mm-hmm. Puis on a beau leur dire d'arrêter de se plaindre puis de se relever puis de ne pas le faire, leur cerveau, lui, il décide que c'est de même, ça marche.
Ouais.
Fait que c'est vraiment de ce désir-là qui est né puis du manque de formation puis d'information que les gens ont à comprendre qu'est-ce que c'est l'anxiété. Fait qu'à la base, c'était ça, l'anxieuse ambitieuse. Ce que je voulais, c'était changer la vision de l'anxiété. Je voulais montrer que ça peut être beau, que ça peut être positif. Il y a une autre personne, je me souviens pas son nom, je pense qu'il habite en Australie, qui parle de l'anxiété, puis qui dit, lui, quand il parle avec du monde, il est comme, OK, puis qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Ouais. Parce que il y a quelque chose qui en ressort quand même de positif, tu sais. Tu sais, moi, mon anxiété m'a permis de prendre soin de moi, de me comprendre, de comprendre comment je fonctionnais. Aujourd'hui, c'est plus une barrière, là, c'est un levier, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est vraiment de ça... Ça s'est enchaîné comme ça. Après ça, quand j'ai parlé de ces projets-là, j'en ai parlé avec des psychologues, j'en ai parlé avec d'autres coachs, puis tout ça. Puis chaque personne s'entendait pour me dire, écoute, faut que tu fasses ta formation PNL. C'est rempli d'outils dans ça. Mm-hmm. C'est rempli de mines d'or qui vont pouvoir te permettre d'accompagner. On m'avait fait une suggestion monstre là, de plein de sortes de livres sur l'anxiété, comme informe-toi, comment le cerveau fonctionne, comment ça marche, pourquoi c'est là l'anxiété, d'où ça vient, parce que tu sais, c'est niaiseux, mais les mammouths aussi, là, ils en faisaient de l'anxiété.
Ah,
oui? Oui, mais il fallait qu'ils chassent, eux, leur cerveau. Là. En fait, la job principale d'un cerveau humain, c'est de capter le danger.
OK.
C'est pas d'apprendre des mathématiques et tout ça. Ce qui fait que si on te demande de te souvenir d'une journée, là, admettons ceux qui étaient... Tu sais, si on te demande de te souvenir le 11 septembre 2001,
oui.
Tu t'en souviens probablement de ce que tu faisais au moment où ils annonçaient que les taux étaient tombés.
Oui.
Si je te demande ce que tu faisais lundi, le 1er janvier, ben je sais même pas si c'est un lundi, mais le 1er janvier 1990, t'en souviens-tu?
J'avais 11 ans, en tout cas, mais à part de ça, je peux pas te dire grand-chose.
Mais non, parce que ton cerveau, sa job, c'est de retenir le danger. Fait qu'il se souvient beaucoup plus des journées où ils ont eu un choc, tout ça. Les mammouths, c'était la même chose. Là, eux, ils chassaient, ils étaient menacés. Son cerveau, il fonctionnait comme nous. C'est jusque-là, le cerveau humain, même si, en tout cas, notre cerveau à nous est plus développé. Fait que, tu sais, on peut y enseigner des mathématiques, mais reste que sa fonction première, c'est de capter le danger. Fait qu'une personne anxieuse, là, qui a... Puis, tu sais, les dangers, c'est relatif, là. Il y a deux sources de stress, là. Tu sais, il y a le stress de, tu sais, si t'es pogné d'un tsunami ou d'un tremblement de terre, il y a pas grand monde qui auront pas peur. Il y en a qui être pris dans le trafic, eux, ça leur fait peur.
Oui.
Mais ton cerveau, sa job, c'est de capter ça. Fait qu'à partir du moment où il capte un danger, lui, ou bien il arrête de fonctionner, ou bien maintenant, on est rendu ben bon pour serrer les dents, ravaler, mettre ça dans notre petite poche en arrière, puis jamais y revenir.
Cumuler.
Mais ton cerveau, lui, ça y fait pas son bonheur. Lui, il sait que c'est là.
Ouais.
Fait que de là viennent des crises d'angoisse, des attaques de panique, des gens qui font des attaques, puis qui savent pas pourquoi, d'où ça vient, qu'ils sont pas en danger. Mais là, tu viens de mettre ton cerveau à off. Lui, il est comme, mais non, il reste des dossiers à régler.
Ouais.
Fait que je sais plus où je m'en allais avec ça, mais bref, que c'est la fonction de ton cerveau. Fait que j'ai lu plein de livres m'informer sur ça pour comprendre comment mon cerveau fonctionnait, comment moi je fonctionnais.
Mm-hmm.
C'est vraiment ce que j'accompagne mes clients à faire. Là. La première étape que je fais avec eux tout le temps, c'est de comprendre eux comment ils fonctionnent, puis pourquoi leur anxiété est là, puis quand c'est arrivé dans leur vie.
Mais mettons, là, si on ramène ça au monde de l'entrepreneuriat où on vit, tu sais, ça a l'air bien beau, là, si vous n'êtes pas entrepreneur puis que vous nous écoutez, tu sais, on va au restaurant, on rencontre du monde, on fait des événements, on a du fun, nanana. Mais d'un point de vue intérieur, il y a beaucoup de sources de stress quand on est entrepreneur. Quand on est une anxieuse, ambitieuse entrepreneur, comment ça se passe?
Ça prend beaucoup de respiration, je te dirais. En même temps, j'ai appris à travers ce parcours-là à faire confiance à la vie. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr là, que comme tout le monde, j'ai des stress d'argent. Comme tout le monde, je me fais dire à quel point je suis donc chanceuse, mais qu'eux, ils voient pas l'envers du décor. Tu sais, là, on tombe en vacances là, oui. pour la semaine de relâche, nous. Moi, le monde, sont comme, ah, t'es chanceuse, ton chum, il a pris des vacances avec toi. Ouais, mais là, les deux personnes en ce moment ne sont pas payées. Parce que moi, si je coach pas,
il n'y a pas d'argent
qui rentre. Puis là, ben, c'est des vacances avec mes enfants. Fait que, tu sais, oui, on est donc chanceux, mais ça reste que ça, ça se planifie comme dans tout. Fait que je pense que être entrepreneur, en plus d'avoir de l'anxiété, la base, c'est d'avoir une bonne fondation, une bonne planification, une bonne structure, là, de savoir où tu t'en vas, puis de faire le chemin, c'est beaucoup moins anxiogène que de ne pas savoir.
Que de pas savoir. Donc, de bien se connaître.
Mais de bien se connaître puis de se faire confiance aussi. Parce que tout le monde a envie du stress, qu'on soit anxieux ou pas, de sortir de sa zone de confort, ça crée de l'anxiété chez n'importe quel humain. Mais de savoir que de ne pas laisser ça gagner. T'sais, moi, je me souviens, mes premiers coachings, là, je pensais que j'allais mourir. Mmh. Je pleurais avant mes rencontres. J'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je m'inflige ça?
Ah oui, hein?
Mais un coup qu'on a accompli après, tu sais, le sentiment de roi du monde. Là, moi, chaque fois que je sors de mon bureau, je suis comme, mais je suis donc ben hot. Puis cette personne-là, j'ai changé sa vie, puis je suis le roi du monde. Mais moi, je suis rendue accro à cette adrénaline positive-là. D'un coup que j'ai fini un coaching, là, je soulèverais à terre, puis je la verrais à l'envers, puis je serais capable, tu sais. Fait que c'est cette motivation-là, moi, que je garde continuellement de, oui, quand je vais aller rencontrer un client dans mon auto, là, j'ai envie de faire un petit caca nerveux, puis je suis les dents, puis ça me tente pas. Puis souvent, je suis même pas capable de manger pendant la rencontre parce que je suis donc stressée. Mais un, l'autre personne, soit qu'elle le voit pas ou soit qu'ils me connaissent, puis sinon, ben maintenant, je suis rendue capable de leur dire, là. Écoute, ça file pas, je suis comme vraiment nerveuse. Ça m'est arrivé cette semaine avec une cliente de faire, écoute, ces temps-ci, j'ai des problèmes de santé. J'ai comme vraiment mal au cœur. Tu me donnes-tu 2 minutes? Bien, juste de le nommer, après, ça n'existait plus. Ouais. J'étais correcte pour la coacher. Puis elle était comme, ah ben oui. Puis
c'est un être humain qui est devant toi, même si parfois un écran, il reste que les gens sont en mesure de comprendre que ça arrive à tout le monde de ne pas filer. Puis que, en tout cas, personnellement, tu vas avoir une coach qui file bien quand tu lui demandes un coaching parce que ça passe son temps à visiter la salle de bain. Bien, il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Là. Fait que de nommer, ça aide énormément. Tes oiseaux ont l'air d'accord avec toi, si vous entendez les oiseaux chez Stéphanie. Ils sont très, très... très heureux et ça doit pas souffrir d'anxiété, ces bébêtes-là. Là.
Eh bien, avec deux chats, les deux perruches, d'après moi que les chats, ils doivent pas être au top de leur forme. C'est peut-être pour ça qu'ils crient tout le temps de même. C'est...
Ah ben voilà, on a des perruches anxieuses. Ils mettent en application ce qu'ils entendent, ce que tu dis à tes clientes, c'est parfait. Dis-moi, Steph, quand tu penses à tes enfants, t'as vécu de l'anxiété, t'es capable de reconnaître ça. Est-ce que tu vis de l'anxiété à ce que tes enfants soient anxieux? Comment ça se passe en tant que maman?
Je vis pas d'anxiété. Ben, j'en ai vécu avant. Avant d'être comme j'étais aujourd'hui, j'avais peur là, de leur transmettre des contaminés, si on veut, puis qu'ils voient que maman n'est pas capable puis qu'ils enregistrent ça. Mais maintenant, ce que j'applique avec mes clients, je l'applique avec mes enfants aussi. Fait que, tu sais, de sortir de leur zone de confort, d'affronter. Tu sais, si je prends exemple avec ma fille qui a dû se faire réparer ses dents chez le dentiste. Oui. Eux, l'option qu'ils avaient, c'était de le faire sous anesthésie. C'était facile. Elle avait 8 dents à réparer. On fait tout one shot. Elle fait dodo, puis c'est fini. Parce qu'elle avait eu peur la première fois qu'elle était allée chez le dentiste. Elle avait peur que ça fasse mal.
Okay.
Mais maintenant que je sais là, c'est quoi l'anxiété, puis que je comprends mon parcours, là, moi, je sais que si on choisit l'option facile de l'endormir à 12 ans, mais qu'elle ait besoin de broche, là, elle a encore peur du dentiste. Oui. On n'a pas réglé ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis battue avec les dentistes pour qu'elles vivent, pour qu'elles. Tu sais, puis c'était avec le gaz hilarant, là. Fait qu'ils sentent rien, ils ont pas mal. Elle a découvert, puis finalement, elle aime ça maintenant, aller chez le dentiste. Fait que non, j'ai pas peur pour eux parce que j'ai cette ouverture-là où ils savent qu'ils peuvent m'en parler, où on a une belle relation avec eux, où je suis capable de leur dire, tu sais, écoute, gars, maman, aujourd'hui, elle file pas, elle a une grosse semaine, c'était demandant, puis tout ça. Puis ils ont une belle intelligence émotionnelle, même s'ils sont tout petits. Fait qu'ils sont capables de comprendre, de venir se coucher avec moi. Puis tu sais, eux, ils ont vraiment vécu le chemin au complet de maman n'est même pas capable d'aller manger au restaurant à maintenant on a une vie tout à fait normale. Fait que je pense que non, j'ai pas peur pour eux parce que je suis bien équipée pour les outiller. Mm-hmm. Puis je pense qu'ils ont assez confiance pour être capable de m'en parler quand ça va pas ou quand il y a des choses qui leur font peur ou qui les stressent plus.
Mm. Puis là, si on a des mamans qui nous écoutent ou des papas qui reconnaissent peut-être des symptômes d'anxiété chez leurs enfants, qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
D'être à l'écoute, premièrement, d'enlever le jugement, puis de, tu sais, on est bon pour dire à nos enfants, voyons donc, ça fait pas de sens, puis tu sais, voir que t'as peur pour ça, puis tu sais, de pas non plus les pousser, de les accompagner. Tu sais, je pense que vraiment notre rôle, c'est pas d'être en arrière d'eux à les pousser, mais c'est vraiment d'être à côté d'eux, puis de les encourager, puis de le faire avec eux. Mais ça prend beaucoup de patience, beaucoup mm-hmm. de douceur.
OK. De pas les pousser, puis de... Parce que souvent, ce qui est difficile avec l'anxiété, c'est que quand tu n'en fais pas ou quand tu connais pas ça, le jugement est assez facile de dire, ben voyons, là, tu sais, relève-toi et mange, là, mets-toi les épaules droites, puis avance, là, c'est ridicule comment tu te sens ou comment tu penses. Tu as juste le goût d'échequer comme un cocotier, mais c'est pas la chose à faire, c'est plus d'être dans l'écoute. Est-ce que c'est de les faire parler? Comment tu te sens?
Premièrement, je veux dire, même une maman ou un papa ou peu importe, là, la personne qui a souffert d'anxiété, il m'arrive moi-même de faire mes enfants. Voyons donc, ça n'a pas de sens.
Okay.
T'sais, fait, même quand tu connais ça, des fois, tu fais comme, là, tu vas t'en remettre. T'sais, l'enfant qui a peur de la coccinelle,
oui.
Puis genre, traverse la rue même s'il y a une coccinelle. Là.
Oui.
Fait que, oui, c'est de parler avec eux, de verbaliser. Puis surtout, les enfants, là, premièrement, c'est plate, là, mais leur cerveau, c'est du jello. Là.
Ouais.
Fait que de leur trouver des solutions magiques, ça marche très bien à cet âge-là. Genre, tu sais, moi, mon neveu, il faisait des attaques de panique, puis mm-hmm. j'étais comme, mais ma tante, elle accroque une lime, là, puis ça me calme mes attaques de panique, parce que je savais qu'il aimait la lime, là, on s'entend.
OK.
Mais, fait que lui, là, tous les soirs, avant d'aller se coucher, il croquait une lime, il n'a plus jamais refait d'attaque de panique.
Wow.
Parce qu'il a pris ça pour du cash, lui-là. Fait que. De prendre le temps de leur donner des outils, aussi simples soient-ils, mais aussi de leur mettre des mots.
Mmh.
Parce que si nous, en tant qu'adultes, on se comprend pas, imagine
ouais.
un enfant
ben non,
de 6,
ça.
8, 10 ans, 12 ans, 15 ans,
mmh.
il se comprend pas lui-même. Fait qu'il comprend peut-être même pas ce qui arrive dans son corps, il comprend pas pourquoi il est comme ça. Fait que oui, de parler avec eux, mais aussi de leur donner des mots, de leur donner des outils, puis de comprendre, puis de faire comme si c'était normal, ça arrive. On tolère pas ça, là, tu sais, je veux dire, l'enfant
non.
qui veut pas faire ses oraux, je suis pas d'accord de « il en fait plus jamais de sa vie ».
Non.
Parce qu'un jour, peut-être qu'il va devoir parler devant quelqu'un, mais d'être là pour l'accompagner, de rendre ça plus doux, de le faire pratiquer, de donner des outils pour calmer le tract, tu sais, les acteurs, ils ont encore le tract
oui.
aujourd'hui, là.
Ben oui, absolument.
C'est normal d'avoir le tract,
oui.
mais d'être là, à l'écoute, puis de comprendre, même si on comprend pas, de faire semblant qu'on comprend.
De pas minimaliser ce qu'ils vivent, en fait.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur?
On me souhaite de révolutionner le monde. Moi, je rêve d'être une référence pour l'anxiété un jour, puis d'apporter le positif, justement. Mais on me souhaite de changer le plus de vie possible, en fait. Là. C'est vraiment ça, la mission derrière l'anxieuse ambitieuse. Oui, il a changé la vision de l'anxiété, mais mon but, c'est que tout le monde soit capable de reprendre le contrôle de leur vie.
Wow! Ben bonne chance dans ta révolution du monde. Merci beaucoup d'avoir été là. On te suit à quel endroit?
Principalement sur Instagram. Si
okay.
vous écrivez anxieuse, ambitieuse, mon nom devrait sortir, mais sinon c'est StephS2.0. Puis sinon, mais j'ai ma page Les aventures de l'anxieuse sur Facebook qui est pas mal moins actif. Puis sinon, ben www.anxieuseambitieuse.com.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Merci à toi.
Et nous, ben, on se dit à une prochaine capsule de Paul Amar à boire.
Membre de la famille H2O Web Media.